reconnaît un écologiste.
Avec tous ces oiseaux à la con, ils ont 5 ans.
CO2.
Ça a des lunettes, ça a une barre, ça a un caouet.
En amour.
Tu préfères les bagnoles ?
Peut-être.
Denis Chessou.
C'est une recette du pays.
Sans produits chimiques, il n'y a jamais de contre-indication.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement, l'émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie et qui prend le temps de ne pas aller trop vite. Avec aujourd'hui Basile Bocquer à la technique ainsi que Guillaume Leroux et assisté de Marion Lelay et de Jean-Christophe Pinaza, c'est Caroline Lebossé qui réalise cette semaine l'émission. Allez, une petite humeur qu'on va intituler le Printemps des Peuples. Nouvel épisode en Libye de ce Printemps des Peuples qui fait germer les révoltes et tomber les dictatures. D'après Kadhafi, cette fois-ci, les coupables sont clairement identifiés. Ce sont Ben Laden et sa clique qui ont truffé le café des honnêtes citoyens libyens de pilules hallucinogènes. Et bien qu'à cela ne tienne, notre ministre des Affaires étrangères se prépare peut-être à proposer l'assistance de Jean-Luc Delarue qui expliquera aux manifestants de Benghazi et d'ailleurs que non, on ne doit pas prendre ce genre de produit. Alors, avis à vous, chers amis auditeurs, adeptes du commerce équitable et du soutien aux petits producteurs de café, ce nouvel expresso baptisé Liberté Intense que vous me dégustez là, eh bien, qui sait si dans quelques minutes, vous ne serez pas saisis vous aussi par l'irrésistible envie de manifester dans les rues pour la liberté, la justice et l'avenir des générations qui nous suivront sur cette planète. Des générations à qui on évitera par exemple de laisser en héritage ces cocktails de produits chimiques divers et variés plus ou moins dangereux, imaginés par les apprentis sorciers de la réduction des coûts, auxquels nous a habitué notre bien-aimée civilisation du « j'achète et puis j'oublie ». Alors 2011, c'est l'année internationale de la chimie, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, on le sait. Et magie bah, des temps modernes, hein. Donnez-moi quelques gouttes de pétrole, je vous fabrique une brosse à dents, des médicaments, une paire de baskets ou de collants, que sais-je. La chimie, avec ses bienfaits incontestables qui ont fait monter fortement le bien-être des individus, et puis bah, ses dérives aussi. Docteur Lavoisier et Mr. Hyde, avec ses binophénols, ses goudrons, ses PCB qui s'installent pour durer dans les océans, les sols, les rivières, la peau, les poumons et le reste. Des substances dont on ne maîtrise absolument pas les effets à long terme sur l'environnement et la santé. D'ailleurs, le long terme, c'est quoi ce machin-là ? La semaine dernière, quand même, la Commission européenne a sifflé la fin de partie pour le diaminodiphényléthane et l'hexabromocyclododécane et quelques autres charmants produits qui seront bientôt interdits en Europe dans le cadre de la réglementation REACH. Interdiction qui, comme l'affirme le commissaire à l'industrie Antonio Tajani, encourageront les laboratoires à développer des solutions de remplacement. Ce qui veut dire que quand on veut, avec du réglementaire, des lois, eh ben on peut. Faute de véritable changement de paradigme dans les grandes cultures, on en profitera aussi pour diminuer la ration de pesticides destinée à nos petits coins de terre. Hein, quand même, on utilise 7000 tonnes, bon an, mal an, dans nos jardins pour élever pommes, pêches, radis, cochons, carottes, etc. Les pesticides, on peut s'en passer. Alors, c'est décidé. Cette année, on embauche les coccinelles et les hérissons pour lutter contre les limaces et les pucerons. Bon, notez bien que les employés en question ne sont pas tous en vente libre dans votre hypermarché. Alors, le printemps, c'est aussi l'époque des batraciens qui traversent les routes tout feu éteint pour rejoindre leur dulcinée. C'est beau une route la nuit, ouais, sauf que quand on y croise un méga camion de 44 tonnes et 25 mètres de long, dont la circulation est maintenant autorisée sur les routes de France, eh bien l'opération Fréquence Grenouille a tout son sens aussi et commence mardi dans une zone humide près de chez vous avec au programme sauvetage nocturne et construction de crapauducs, sans oublier les concerts gratuits, les rêves parties de Rainette, Crapaud Calamite et Sonneur à ventre jaune. Et oui, quand on vous disait que l'espèce humaine n'avait rien inventé. Et aussi longue vie au peuple du printemps. Alors au menu de cette édition de CO2 Mon Amour avec Jean-Marie Pelt, tout à l'heure nous allons voir donc l'évolution vue par un botaniste avec les origines de la vie. Et puis je vais vous emmener, tenez, sur cette île.
Quand on est sur le haut de Belle-Île, on a l'impression d'être sur un grand plateau. Et ouais. Puis très rapidement en vélo, on se rend compte que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, parce que tout ça c'est coupé de vallons. Et puis quand il n'y a pas de vallon, on débouche directement du plateau à la falaise d'un coup, avec 30-40 mètres de falaise et des écosystèmes du coup particulièrement intéressants dans ces endroits en plein large.
Vous l'avez compris, nous irons dans le Morbihan rejoindre Julien Froger et Geneviève Guichenet, donc habitants de cette île, qui n'est pas encore un laboratoire du développement soutenable, loin de là, mais ils sont quand même pas mal sur la bonne voie et c'est tout à fait intéressant. Et puis nous aurons notre actualité sous forme de décryptage avec Frédéric Noé, qui est ingénieur en environnement, qui intervient régulièrement dans cette émission, à qui l'on doit l'atlas du réchauffement climatique. Bonjour Frédéric.
Bonjour Denis.
Frédéric, au menu, très rapidement, je vais te parler de décryptage. Il y a quand même quelques acronymes intéressants qu'il faut un peu comprendre.
Ah bah, il y a la loi NOM, oui, il y a les compteurs intelligents, il y a les certificats d'économie d'énergie, FNE aussi, tiens, FNE.
France Nature Environnement.
France Nature Environnement.
Très bien, effectivement, qui a fait une petite campagne assez musclée, avec pas mal de réactions aussi dans le domaine associatif, nous en parlerons. Et puis avant d'aller dans le Morbihan du côté de Billy, on va aller plus au sud pour retrouver qui? Ah bah, vous le connaissez, Trainet.
Mamselle la plante, la catalane, vivait jadis au fond du square à Perpignan. Quand elle passait sous les platanes, on lui disait, chante la plante, sois pas gnangnan. Et la bonne vieille, sans se faire prier, se mettait alors à crier. Plorante, je suis à tes genoux pour te dire que je t'aime. Implorante, je viens au rendez-vous des chansons, des poèmes. Implorante, je demande un boutou que j'attends dans un moment superbe. Car la plante, quand elle tombe à genoux, c'est pour dire, c'est pour faire de tout. Voyez comme la vie est curieuse, passant par là certains jours deux impressaries. Écoute la plante mélodieuse, évite langage d'abord à Page, puis à Paris. À présent, dans les grands musicales, elle hurle, c'est la nouvelle école. Implorante, je suis à tes genoux pour te dire que je t'aime. Délirante, je viens au rendez-vous des chansons, des poèmes. Exigeante, je demande un poutou que j'attends dans un moment superbe. Car la plante, quand elle tombe à genoux, c'est pour dire, c'est pour faire de tout. C'est pour dire, c'est pour faire de tout. Implorante.
C'est à nous. Mais oui. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Allez, l'évolution vue par un botaniste, donc par vous-même. On attaque avec les origines de la vie. Alors, souvenez-vous, hein, la Terre, on va dire, s'est formée il y a un peu plus de 4 milliards et demi d'années, et la vie intervient très juvénile, en fait, un milliard d'années après.
À peu près, oui. On n'est pas tout à fait sûr, mais c'est de cet ordre-là. Et la question, évidemment, c'est comment ça s'est fabriqué, la vie. Ouais. Comment ça commence, la vie? Parce qu'au départ, il n'y a pas de vie. D'ailleurs, les conditions au départ sont dramatiques. Il fait une chaleur épouvantable, il y a des volcans terribles, il y a des orages monstrueux, il n'y a pas de vie. Et puis, les premiers fossiles nous apparaissent. Ils sont vieux de 3 milliards et demi d'années. Ce sont des fossiles de bactéries. Alors, on s'est posé la question, comment ça a commencé? Eh bien, chose extraordinaire. Quand j'étais en fac, on nous a donné un merveilleux scénario. Et nous étions tout fiers du scénario qui était imaginé par un grand scientifique russe, Oparine, et par un non moins grand scientifique anglais, Haldane. Et c'était l'histoire suivante. Dans l'atmosphère primitive de la Terre, il y avait de l'ammoniac, du méthane, de la vapeur d'eau, pas d'oxygène. Et quand les éclairs ou quand les éléments radioactifs donnaient de l'énergie à ce mélange, eh bien, il se fabriquait les premières molécules qui sont les briques avec lesquels nous sommes construits, c'est-à-dire en somme surtout des sucres et des acides aminés. Et pour preuve de ce scénario, on avait les expériences de M. Miller, qui est un Américain, qui en 1953 a mis un mélange de gaz comme celui que je viens d'évoquer dans un ballon, il a fait éclater des arcs électriques, et au bout de quelques jours, on a sorti du ballon des acides aminés et des sucres. Et donc on a dit, voilà, la thèse d'Oparine, c'est la bonne, c'est comme ça que ça marche.
Alors il y a quand même une chose extrêmement importante, c'est l'aptitude de l'atome de carbone qui peut se combiner avec ceux de l'oxygène, de l'hydrogène et de l'azote. Ça, c'est vraiment une des clés que l'on sait aujourd'hui. Ça donne des combinaisons incroyables.
Tout à fait, c'est la démonstration spectaculaire de ce que j'ai appelé le principe d'associativité. Le carbone a des velléités associatives phénoménales. Toutes les molécules vivantes sont à base de carbone. Les autres atomes, il y en a 92 au total, ne sont que là pour le monde minéral, mais pas pour le monde de la vie. Et ce que nous constatons, c'est que aujourd'hui, nous avons hérité de nouvelles explications, parce que la bonne explication que je croyais la bonne au départ, eh bien maintenant, elle est contestée parce qu'on se pose la question de savoir si la vie ne serait pas vue d'une autre planète.
Voilà, ça c'était Arrhenius qui
disait
ça.
C'était Arrhenius, c'était un Suédois. C'était déjà il y a plus de 100 ans.
Donc notre vie, notre Terre a été ensemencée par l'extérieur, par apport de météorites, entre autres.
Tout à fait, et ça s'appelle la panspermie. Et cette théorie a brusquement repris de la vigueur parce que le petit engin qui a été posé sur la comète Stardust et qui a rapporté dust de la poussière star venant des étoiles, eh bien dans cette poussière, il y avait du glycocol qui est un acide aminé.
D'accord.
Et qui ne vient pas de la Terre, forcément, puisque la comète vient d'ailleurs. Donc on s'est dit, c'est peut-être vrai qu'Arrhenius a raison. Puis après ça, il y a encore une autre hypothèse, c'est que les plaques tectoniques qui se tamponnent au fond des océans laissent passer de l'eau très chaude qui vient du magma. Et là, il y a des bactéries très curieuses, qu'on appelle des archéobactéries ou des archées, qui vivent sous des pressions énormes.
Qui vivent avec du soufre.
Avec du soufre, dans une parfaite obscurité. Et on s'est dit, est-ce que c'est pas ça l'origine de la vie ? Alors voilà qu'on est obligé de dire que nous avons plus d'hypothèses que de preuves, mais ça veut dire aussi que nous avons encore beaucoup de choses à découvrir.
Alors il y a cet homme qui était prodigieux, qui était Jacques Monod, un biologiste matérialiste. Qu'est-ce qu'il nous a appris ?
Alors lui, il était absolument stupéfait de la complexité de la molécule d'ADN. Il se demandait comment elle avait bien pu se former. Et bien que matérialiste athée, il pensait que c'était quelque chose qui ressemblait à un miracle. Oui. En effet, une molécule d'ADN, c'est une double hélice très longue, avec, on pourrait comparer ça, si vous voulez, à une chaîne, avec des maillons successifs. Et chaque maillon correspond à une structure qu'on appelle un nucléotide. Il y en a 5 des structures comme ça. Il y en a 5 possibles. Et alors, elles sont enfilées dans un ordre précis pour que ça donne le code génétique. Elles ne sont pas enfilées n'importe quel ordre. Alors il y a une réponse en disant tous ces nucléotides ont été ballottés pendant des millions et des millions d'années dans les océans, et puis tout d'un coup, ils se sont agglomérés. Mais alors là, la réponse qui nous vient, si vous prenez un singe, vous lui donnez un sac, vous mettez dans le sac les lettres de l'alphabet, et le singe tire une lettre après l'autre, et on les met l'une à côté de l'autre. Les chances pour que ça donne un mot sont faibles, et les chances pour que ça donne une phrase sont encore plus faibles, et les chances pour que ça donne une histoire sont nulles. Et alors, mon ami Trinh Chuan Chuang, il faut savoir le dire ça,
oui.
Qui est un très 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 éminent astrophysicien qui travaille aux États-Unis mais qui est français, a repris au Mateus cette image. Pour qu'une longue molécule d'ADN puisse se former, par pur hasard, il y a aussi peu de chances que pour qu'une flèche soit tirée sur une cible de 1 cm carré située à 13 milliards d'années-lumière.
Et pourtant, la flèche atteint son but.
Et pourtant, la flèche atteint son but.
C'est dingue.
Donc, on est de nouveau devant un mystère.
Oui.
Vous voyez que finalement, on a des hypothèses qui sont multiples, mais on a peu de certitudes en ce qui concerne les origines. Les origines sont parfois encore cachés.
Mais ce qui est sûr, en revanche, c'est que en fait, le processus va s'appuyer sur une addition continue d'éléments simples.
Toujours. C'est un processus de base. Les nucléotides, ce sont des atomes de carbone, d'oxygène, d'hydrogène, d'azote et de phosphore. Voilà. C'est 5 atomes. Oui. C'est pas beaucoup, 5 atomes. Ça peut être aussi éventuellement, non, c'est 5 atomes, c'est ça. Eh bien, ces 5 atomes sont goupillés de telle sorte qu'ils sont mis dans un ordre précis qui leur donne des propriétés nouvelles, qui sont les propriétés des gènes. Voilà. Alors, à partir de là, on va se poser la question suivante. Comment cet ADN si performant a-t-il pu passer au stade suivant, qui est le stade de la bactérie ? Parce que la bactérie, ce n'est pas que de l'ADN.
C'est une usine incroyable.
C'est une usine formidable. C'est le premier être vivant, oui, et qui est capable de toutes sortes de performances, qui est en réalité plus performante que nous. Elle s'adapte à des conditions de milieu extraordinaires, quand il fait très chaud, quand il fait très froid, quand il y a une énorme pression. Elle est capable de piquer des gènes à la bactérie d'à côté. Moi, je ne suis pas capable, bien qu'on est assis côte à côte, de vous piquer un gène. On ne peut pas vous piquer un gène. Vos gènes sont soigneusement emballés dans les noyaux de vos cellules. Donc
même mon portefeuille, vous ne le prendriez pas.
Mais non, je ne le ferai pas. mais vous voyez, alors, les bactéries sont très performantes. Et on ne sait pas non plus comment on est passé de la molécule d'ADN à la bactérie. Par contre, on sait comment on est passé de la bactérie à la cellule à noyau. Alors ça, c'est très important, c'est une symbiose. C'est de nouveau de l'associativité. Vous voyez ce concept, il est là tout le temps. Il traverse tout mon bouquin. Et c'est pour ça que c'est assez nouveau comme histoire, en définitive. La cellule à noyau, elle a encastré probablement dans son noyau plusieurs bactéries. Et donc l'ADN de ces bactéries-là. De sorte que l'ADN de ces bactéries-là, il est séquestré dans le noyau. Et puis, elle a ensuite capté une bactérie qui contient de la chlorophylle. Et ça devient le chloroplaste de la cellule végétale, qui fait que les végétaux sont verts. Et puis, elle a capté une autre bactérie qui est spécialisée dans la production d'énergie. Et ça donne la mitochondrie. Et donc, cette formidable symbiose permet de passer des bactéries aux cellules à noyaux qui sont beaucoup plus performantes, qui sont celles que nous avons, nous, et que tous les animaux et toutes les plantes supérieures possèdent. Et cette symbiose a été décrite par Madame Lynn Margulis, dont tout le monde s'est moqué. Quand elle l'a publiée pour la première fois, on a dit qu'elle était un petit peu siphonnée. Et puis après, on a vu qu'il y avait plein d'arguments qui allaient dans ce sens-là. Et là, on a à peu près des certitudes.
Merci Jean-Marie. Chez Fayard, l'évolution vue par un botaniste. On se retrouve la semaine prochaine.
Au revoir à tous. Au revoir Denis.
There are flowers in my room and they don't need a job. They just need time to grow and die. And lovers on their cloud don't give a shit about the money. They heal or try to stay side by side, but it's so hard. 'Cause the morning always comes to kill the dream you had the night before. Well, I'm dragging myself all along the pavement up in the sky. There's someone behind and is guiding my steps. Up and down the life stairs helps me nearby. Living again. And I'm a-walking all that day, day after day. But it's okay, I'm on my way. Wandering again from the west to the east. I'll try to resist, but it's so hard not to fall. 'Cause the morning always comes to kill the dream you had the night before. Well, I'm dragging myself all along the pavement up in the sky. There's someone behind and it's guiding my steps. Up and down the life stairs helps me get by. Living again.
c'était Jill is Lucky. Donc il est très très content, Gilles Leno, sur France Inter. Donc vous êtes bien en direct, c'est Ode mon amour. Après ce premier volet avec Jean-Marie Pell, voici notre deuxième chapitre. Je vous emmène. Venez, respirez les ombres.
Alors Julien Froger, qu'est-ce que vous observez? Parce que nous sommes quand même face à une plage qui est superbe. Et puis juste derrière, un vallon, des landes, des reliques de forêt. Et en fait, nous sommes à Belle-Île.
Là, on regardait simplement la dune où l'équipe des gardes du littoral ont travaillé aujourd'hui. C'est un habitat particulièrement intéressant, milieu dunaire, extrêmement riche, extrêmement adapté, avec beaucoup d'espèces qui sont spécifiques de ce milieu-là.
Alors ce qui frappe tout de suite ici, vous en avez l'habitude, mais enfin c'est ces mosaïques de lumière absolument incroyables qui sautent au visage. C'est de se dire que juste derrière, on va être dans la pleine campagne et que là, on est juste à côté de falaises et tout ça sur 84 km2, quoi.
C'est ça, 84 km2, un grand plateau entrecoupé par quelques dizaines, centaines de vallons qui débouchent sur des plages, les vallons, des criques. Et puis, quand il n'y a pas de vallon, on débouche directement du plateau à la falaise d'un coup, avec 30, 40 mètres de falaise. Et des écosystèmes, du coup, particulièrement intéressants dans ces endroits en plein large.
Alors, vous arrivez sur la plus grande et la plus méditerranéenne des îles bretonnes, à Palais. Donc, nous sommes à Belle-Île. Vous aurez d'abord une pensée émue pour Vauban, qui a quand même séjourné au XVIIe siècle quelque temps. Belle citadelle, maintenant transformée un petit peu en hôtel. C'est intéressant parce que c'est vrai que c'était à la fois, on savait bâtir efficace, austère, mais beau. Tandis qu'aujourd'hui, vous avez des camps de vacances et même les militaires, ils n'en voudraient pas. Bon. Vous penserez aussi aux 78 familles canadiennes, descendants de colons français qui, au XVIIIe siècle, produisir la pomme de terre sur l'île plusieurs années avant Parmentier. Bah oui, hein, si vous mangez de la purée là-bas, c'est grâce à nos amis acadiens. Et puis quand vous arrivez, il y a aussi ce que vous ne voyez pas à Belle-Île, à savoir des lignes électriques enfouies. Il n'y a pas de lignes blanches sur les routes, non pas parce qu'un animateur de télé les a fumées, mais pour d'autres raisons. Et puis vous n'avez pas, ou en tout cas à peine, de panneaux publicitaires immondes. Ça nous fait quand même du bien pour le regard. Et puis bien sûr, vous avez les habitants. 5000 habitants à l'année. Et sur ces 5000 habitants, vous avez quand même 17 personnes qui sont dédiées aux espaces naturels, à la communauté de communes de Belle-Île. Et Julien Froger donc, en fait partie. On était très en avance sur ce thème-là, il y a déjà de nombreuses années, parce qu'il s'agit quand même de protéger les lieux. On imagine bien qu'il y a 50 000 personnes en été, donc ça a multiplié par 10. Et à l'année, on fait de la prévention, quoi. On canalise le flot des touristes, sans avoir l'impression d'ailleurs de les contraindre, tout en les orientant. Donc ça, c'est vraiment tout un art. Le tourisme, sans doute, c'est la première richesse de l'île. Donc on a mis autour de la table les hôteliers, les marchands de glace, de frites. C'est pas forcément les mêmes, sauf si vous aimez les glaces à la frite. Ça, c'est une perversion qui est autorisée. Donc vous avez aussi les agriculteurs, une cinquantaine, parce que Belle-Île, en fait, est très peu... C'est pas une terre de marins, quoi. C'est, avant tout, c'est vraiment une terre de terriens. Et puis, non loin, je vous rajoute des landes à bruyère, des agneaux curieux. Parce que quand ils sont moutons, ils sont plus curieux. C'est comme les enfants, vous voyez. Des agneaux, ils sont curieux. Et les goélands. Alors, attention, les goélands, entendons-nous bien. Le goéland brun, pas l'argenté. Non, non, là, vous avez une très belle colonie de goélands bruns. Et du haut de ces 63 mètres et plus, si on est un goéland, eh bien, une des beautés du monde vous contemple. Nous partons avec Julien Froger sur cette île.
Ah, on va vous laisser passer. Allez-y. Voilà, bonne balade. Alors vous qui êtes justement un peu le monsieur, j'irais biodiversité, puisque vous occupez donc des espaces naturels, on l'a dit, à la communauté de communes de Belle-Île. Qu'est-ce qui fait le sel de la biodiversité à Belle-Île?
Alors, il y a plein de choses, mais c'est un mélange de toute la richesse paysagère qu'on vient de décrire. Les landes d'un côté, puis après on a toutes les végétations de falaises, évidemment, ouais. Avec des plantes un peu spécifiques au milieu insulaire. Qu'on trouve que sur le caillou.
Alors quand on parle du caillou ici, il faut penser schiste, parce que c'est un peu, je dirais, une espèce d'exception, parce qu'on est quand même à côté de la Bretagne, enfin on est en Bretagne, mais qui est granitique. Puis là on est sur du schiste.
On est sur du schiste comme à Groix, pas tout à fait la même plaque, ouais. Donc on a un bout de schiste qui est en dessous, ouais. Qui remonte. On a des sites comme à bord d'Ardouée, avec des veines de cailloux, des couleurs complètement ahurissantes. Ouais. Des veines rouges, oranges, verts, enfin des choses magnifiques. Puis on a également la pointe du talus, c'est les restes d'un ancien volcan. C'est un peu une spécificité, le schiste, et qui donne aussi ce découpage des côtes, quoi, cette espèce de dentelle.
C'est incroyable.
Hop.
Bon, et puis là, vous nous emmenez sur un de vos petits, coins secrets.
Voilà, on a débouché sur un site. Je pense qu'il y a, les yeux tout de suite s'ouvrir. Une espèce de tremplin géant en pleine nature. Et là, vous allez découvrir, tomber sur un paysage qui est absolument magique.
Wow !
Voilà, c'est ce site qui est absolument magique. Oh, voilà. La végétation commence à reprendre dans les endroits qu'on a essayé de protéger.
Oui, parce qu'on précise bien que c'est pas simplement loin de là, les jardins, les espaces verts. Quand on passe espace naturel dans les grandes villes, vous, c'est pas ça du tout.
C'est surtout pas les espaces verts. Moi, je déteste qu'on dise, Julien, des services espaces verts. Non,
je savais que j'allais tout de suite vous faire partir.
Non, on parle bien d'espace naturel complètement.
Ou alors le vert qu'on a sous les yeux. Hein ?
Ou alors la mer.
Voilà.
Ça, c'est un peu une thématique toute neuve, hein, qu'on est en train d'investir progressivement,
oui,
par le biais de Natura 2000, justement. Où on cherche à protéger le domaine marin. Donc on a un peu une chance sur le domaine marin, c'est que le niveau de pression n'est pas excessivement fort,
oui,
mais il faut regarder. Alors nos préoccupations, elles ne sont pas de ce côté-là, du côté côte sauvage, ils sont de l'autre côté. Nos préoccupations, elles sont côté
Bretagne, quoi.
Côté en dedans, oui, côté en dans la côte, oui. Où là on a un banc de merle. Alors le merle, c'est une petite algue calcaire, rouge, que certains surnomment le corail breton, ça ressemble à un peu du corail. Et donc on a un banc là qui fait 3000 hectares de merle. C'est la richesse numéro 1, c'est une des préoccupations numéro 1 en Bretagne, le merle. Et là, il y a une vraie problématique à conserver ce milieu qui est foisonnant de vie, des niveaux de biodiversité qui sont équivalents à ce qu'on trouve dans le corail.
Qu'est-ce que ça, c'est des pouponnières donc aussi ?
C'est des nurseries, ouais. Donc on a toute une faune associée parce qu'on a plein de micro-habitats du fait que ce soit un peu en forme de corail. Et on a toute une faune associée à cet environnement qui est absolument, absolument génial, mais malheureusement microscopique, donc c'est un peu moins pédagogique que,
oui,
que la barrière de corail de La Réunion, c'est peut-être pas la meilleure en citation, mais...
Ou que l'ours blanc, ou, que l'on
voilà,
connaît.
C'est un peu tout petit, donc on s'en rend pas compte.
Ouais.
Ceci dit, on s'en rend compte par un truc, c'est comme par hasard, on pêche la coquille Saint-Jacques dedans, tout comme par hasard, quand on pêche la coquille Saint-Jacques au Glénan, c'est dans du merle, comme par hasard, en rade de Brest, c'est à nouveau du merle, en baie de Saint-Brieuc, il y a à nouveau du merle. Donc voilà, c'est bien la preuve qu'il y a quelque chose de très riche.
Oui. Et ça participe bien sûr à la chaîne alimentaire, ça c'est clair.
Voilà, exactement.
Bah, tenez, on va aller rejoindre une femme que l'on connaît, qui adore ce coin-là, journaliste, Geneviève Guichenet, qui a posé, je vais pas dire ses casiers à homards ici, mais qui est vraiment tombée amoureuse de cette île. Comment on peut peindre cette île pour celles et ceux qui ne la connaissent pas? D'abord, déjà, elle s'appelle Belle-Île, donc déjà, c'est déjà un bon point, et puis c'est justifié, c'est pas usurpé. Mais quand même, qu'est-ce qui vous touche le plus dans cette île, vous?
Une forme d'âpreté et de douceur mélangée.
Ouais.
Et sa remarquable préservation à laquelle Julien travaille. C'est un trésor, on s'aperçoit que le vivant est un trésor, mais un trésor fragile.
Mmh.
Et s'il y a des lieux où on peut et on doit particulièrement faire attention, ce sont bien les milieux insulaires. Et en même temps, c'est là qu'on voit qu'en faisant, on arrive à protéger.
Qu'est-ce que c'est le discours réaliste pour appliquer le développement soutenable, ici Geneviève Guichenet, par exemple ?
Mais déjà, il y a une prise de conscience beaucoup plus importante qu'on ne le pense chez les insulaires. Et deux des quatre communes ont créé des commissions extra-municipales développement durable.
Oui.
Ça se passe remarquablement et je crois que on sous-estime l'attente où sont tous nos concitoyens qu'on commence à se préoccuper de la planète. Et eux, ils se disent, mais comment je peux faire, moi, avec mes petites mains, avec tout ce qu'on annonce, la mer qui monte, le pôle qui fond, tout ça, les ressources naturelles qui s'épuisent. Et puis, quand il y a le maire d'un village dont j'oublie la... Enfin, le village, c'est plus gros que ça, dit, le monde commence partout. Et je pense qu'il faut permettre à nos concitoyens de dire, vous avez raison, le monde commence partout, qu'est-ce qu'on peut faire ici et maintenant ? Puis on n'a pas des tonnes de temps à attendre. Je veux dire, quand on dit il faut s'occuper des enfants, il va falloir leur apprendre. Oui, certes, mais enfin, pour l'instant, c'est les adultes qui font les bêtises. Donc on va pas attendre que la génération des tout-petits ait atteint l'âge adulte. On est dans un moment où on est sur une ligne de crête, me semble-t-il.
Et oui, encore des possibles, c'est ça.
Il y a encore des possibles, voilà. Mais il ne faut pas traîner et puis il ne faut pas se tromper. Et je ne crois pas que... qui que ce soit ait envie d'attendre tout ce temps-là. C'est très impressionnant de voir à quel point nos concitoyens sont soucieux et il faut juste les accompagner. Il faut leur dire allez-y.
Vous avez construit vos petits cairns là, vous avez vos petits tas de cailloux hein, qui balisent le terrain, c'est chouette,
ouais, plutôt que de mettre toujours des petits murets, des petits fils, et on dit voilà un petit muret, ça appelle, on a envie d'aller au suivant, donc ça balise le chemin et ça évite que les gens partent sur les côtés.
Ouais.
C'est un peu sympa, ça rappelle la montagne.
Oui, c'est ça.
Et là, la dune mobile, la dune qu'on a devant nous, là, mobile mais pas que d'ailleurs, elle appartient à la commune par exemple. Juste derrière le fil, on est sur de la dune grise en propriété privée.
Et donc ça, c'est vous qui le gérez, tout le monde va dans le même sens.
Voilà, et dans le cadre de Natura 2000, justement, ce qu'apporte Natura 2000, c'est qu'on a un périmètre très large qui s'en fiche de qui est propriétaire et qui dit, voilà, dans ce site-là, vous êtes habilité à discuter avec les propriétaires pour mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires au maintien de la biodiversité.
Geneviève Guichenet, il y a un type qui a passé quelques temps, il a passé 75 jours, pas plus, il a fait 39 toiles ou une trentaine de toiles, c'est Monet. Je crois qu'il a fait beaucoup plus évidemment que n'importe quel office de tourisme en venant ici. Et alors on reste toujours ébloui, ce n'était pas forcément les mêmes lumières qu'il avait, mais par les couleurs folles qui jouent partout. C'est-à-dire que quand on est ici, on se dit que c'est un réceptacle de lumière dingue. Et on décolle pas, quoi. On décolle pas, on peut se poser là, on n'a qu'une chaîne et c'est très bien.
Quand on voit les aiguilles de porc-coton peintes par Monet, on se dit il exagère. C'est pas possible qu'il y ait autant d'écume au pied des aiguilles, mais on oublie qu'elles s'appellent porc-coton, précisément à cause de ça. Et les jours de tempête, tous les Bellilois vont à porc-coton, tellement c'est extraordinaire. Et quand il n'y a pas de tempête, il y a ces lumières en effet qui ont attiré tellement de peintres. Des lumières dues à la mer, parce qu'on est en pleine mer, cette nature tellement préservée, ces rochers sombres, c'est vrai que c'est un trésor. Et au-delà de l'île elle-même, on sent bien que c'est le vivant et la planète, c'est un bout de planète. Et du fait que c'est une île, on a la sensation en effet que c'est un laboratoire et que l'enjeu de la protection de cette île, c'est l'enjeu planétaire en fait.
On va s'asseoir, c'est très très bien. Alors on a posé les fesses sur quelle graminée latine ?
Nos fesses sur une pelouse aéro-aline.
Ah.
Alors aéro-aline, c'est assez simple et assez ludique à retenir. Aéro comme le vent, aline comme le sel, donc une pelouse qui est résistante au vent et au sel, une pelouse littorale.
j'ai crié Aline.
Bon, voilà, et... première phase en fait de la végétation en gros belliloise. Ensuite commencent les landes, dont les fameuses gens d'abrouillard vagabondes. Ouais. Et puis derrière, on rentre dans les landes. Et puis ensuite, on trouve les champs et l'agriculture.
Qui vous a raconté l'île? Qui vous a emmené quand vous étiez tout petit, vous ici? Ça fait combien de temps que vous êtes là d'abord, Julien?
Alors, moi, je ne suis pas venu tout petit. Je suis venu sur le tard. Je suis arrivé sur Belle-Île il y a 5 ans. Ouais. Qui m'a raconté Belle-Île? Ben, un peu plein de gens. Hein, un peu... Justement, je suis arrivé ici en tant que chargé de mission Natura 2000. Donc, mon travail pendant les 6 premiers mois, ça a été de prendre mon bâton de pèlerin, de me balader, d'aller à la rencontre dans les villages, des agriculteurs, des élus, d'un peu tout le monde pour essayer justement de capter les informations, d'essayer de comprendre comment tout ce petit monde y fonctionne. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la chose un peu magique sur une île, c'est qu'on est un peu sur un laboratoire, donc on arrive à comprendre comment tout fonctionne, finalement assez vite, comment tout est interconnecté.
C'est-à-dire qu'il y a un écosystème humain et un écosystème naturel.
Exactement, ouais. C'est vraiment le terme. On est sur un écosystème humain et naturel.
Voilà, alors évidemment, il y a quand même quelques soucis. On se doute bien que les prix des habitations sont alignés sur le prix des résidences secondaires. Donc, c'est pas simple quand on est un insulaire de rester, quand on est un jeune. Mais heureusement, il y a des propriétaires qui louent aussi moins cher. C'est le cas pour Julien Freuget. Et puis, il y a le problème de l'eau. Alors, le problème de l'eau, ça, oui, ça bouge beaucoup actuellement sur cette île-là parce qu'on se souvient de la sécheresse de 2005. Donc, il y a un projet d'usine actuellement de dessalement de l'eau qui a été retoquée par la préfecture au nom de la loi littorale. Mais voilà, il faut se poser les bonnes questions, c'est-à-dire est-ce qu'on a vraiment besoin d'une usine qui va être très énergivore, avec après des coûts aussi d'exploitation qui sont quand même assez inconnus. Donc la nécessité d'une usine reste à démontrer, même si les élus en général veulent assurer la sécurité de l'eau, mais il y a peut-être d'autres moyens de faire. Est-ce qu'on est sûr d'avoir bien utilisé la ressource disponible? Sur l'île, il n'y a pas du tout de nappe phréatique, hein, c'est uniquement l'eau qui coule du ciel, qui est retenue par un barrage, mais est-ce qu'on le gère bien aussi? Voilà, et donc d'un côté, on sent bien qu'il y a une filiale de Veolia qui verrait bien d'un bon oeil Belle-Île, laboratoire du dessalement, et puis de l'autre, non, c'est-à-dire ça peut être au contraire Belle-Île, modèle d'un laboratoire de gestion économe de l'eau. Voilà, donc l'affaire n'est pas encore tranchée, et puis la force de cette île aussi, c'est que vous avez 150 associations, je le rappelle, pour 5000 habitants, hein. Donc c'est beaucoup, et il y a heureusement beaucoup de paroles qui circulent et beaucoup de concertations. Merci à Julien Freuget et à Geneviève Guichenet. Et puis, troisième volet dans quelques instants, on va décrypter quelques gros mots comme NOM, comme compteur intelligent, comme trader aussi sur le carbone avec Frédéric Denré.
CO2 mon amour.
Il est heureux, lui.
Denis Chessou.
Il connaît pas l'hypocrisie, la méchanceté. Il est là, il court partout. Il est heureux. Fait de mal à personne. C'est pas que le monde est moche comme ça.
Mais non, il est pas moche, le monde, Madame Castella. Il est comme il est, faut faire avec.
Non, moi j'ai pas envie de faire avec. C'est trop dégoûtant, c'est trop horrible, ça m'intéresse pas.
Faut vivre à Disneyland alors.
Apprenant que les gendarmes recherchaient un vagabond. Et une brave dame m'a caché sous son jupon. Quelquefois, je l'admets, j'ai couché sous un pont. Mais je n'avais encore jamais logé sous un jupon. Comme sous ce jupon, il faisait doux, il faisait bon. Comme sous ce jupon, il faisait noir comme du charbon. Comme il faisait nuit, je me suis endormi. Je me suis endormi comme si j'étais dans un bon lit. Ma nuit s'est conclue par un réveil au clair de lune, en ne sachant plus dans quel pays, dans quelle commune. J'ai couché, je l'admets, parfois au clair de lune. Mais je ne l'avais encore jamais vu de ce volume. Je suis dans le néant, je ne reconnais pas la chambre. Ce parfum d'océan mêlé à une pointe d'ambre. J'ai dormi, je l'admets, parfois dans un fossé. J'ai dormi, je l'admets, quelquefois sans me déchausser. Ai-je fait relâche chez les Bédouins en Arabie? Ai-je je fais relâche chez les Apaches sous un tipi. Parfois j'ai campé, j'ai dormi sur des canapés. J'ai dormi, je l'admets, quelquefois sans me dessaper. Dans ce campement de fortune, j'ai posé un collet, j'ai vu un lapin dans les dunes. Mes autres résidences ne valaient pas un radis. Et de toute évidence, ici je suis au paradis.
Parfois au clair de lune, c'était Thomas Fersen sur France Inter et en direct, donc troisième volet de cette émission, avec Frédéric Danhé pour décrypter un peu une actualité. Tenez, on va commencer par ce son.
Comment accepter en effet qu'au nom de la concurrence, on oblige un pays à augmenter les tarifs de l'électricité? Comment justifier que les intérêts du marché soient plus importants que ceux d'un pays, de son économie, de sa population? L'électricité n'est pas un produit banal, ce n'est pas une marchandise ordinaire, et il est donc juste et responsable que des gouvernements, année après année, aient décidé qu'elle ne ferait pas l'objet de spéculation à des fins de profit, mais qu'elle serait accessible à la population et à nos industries. Votre projet de loi est inacceptable.
Daniel Paul, député de Seine-Maritime. Nous allons parler, j'ai reçu à peu près une vingtaine de courriels, pas sur la même semaine, mais peu importe, sur ce qu'on appelle la NOM, donc la nouvelle organisation du marché de l'électricité. Ça va se traduire par façon une loi aussi d'augmentation des prix. Alors racontez-nous, qu'est-ce que c'est? Quel est l'état d'esprit, Frédéric Danhé, derrière cette nouvelle organisation du marché de l'électricité?
Eh ben, notre ami le député n'a pas mangé son mandat parce qu'il a raison, il a tout dit. La loi NOM, en fait, c'est une réponse de la France aux injonctions de la Commission européenne, laquelle a comme dogme et voire comme mythe fondateur la concurrence libre et non faussée. Donc, il faut qu'EDF entre en concurrence avec des tout petits qui n'ont jamais rien produit de leur vie, pas un électron en tout cas, comme Poweo et Direct Energy. Donc, la loi NOM impose à EDF de vendre 25% de sa production électrique à 90% nucléaire, payé par le contribuable depuis 40 ans, à un prix très bas, de façon à pouvoir permettre à Poweo, Direct Energy et autres concurrents, de façon à ce qu'ils puissent vendre eux-mêmes cette électricité qu'on leur aura vendue pas cher, et de façon à ce qu'ils puissent nous la vendre au prix du marché, lequel prix du marché est plus élevé que le prix du tarif régulé. Et dans la loi NOM, il y a aussi un dispositif un peu complexe, je vous passe les détails, qui fait que mécaniquement le tarif régulé ne pourra qu'augmenter. Alors d'après que choisir, ce sera
Fait aujourd'hui, il est régulé, c'est-à-dire qu'on paye notre électricité qui est la moins chère d'Europe, oui. 20 à 30% de moins qu'on va dire que le prix européen.
Ce qui est logique parce que les impôts des contribuables ont Mesmer en 70, depuis le lancement du programme électronucléaire, nos impôts ont financé le nucléaire. Donc il est assez logique d'avoir un petit retour sur investissement. Mais ça, évidemment, pour les technocrates de Bruxelles, c'est une honte, car c'est anti-libéral. Voilà. Donc, pour répondre simplement à un dogme, on oblige EDF à créer une rente chez leurs concurrents. Mmh. Du coup, on oblige EDF à réduire le peu d'argent qu'il veut bien encore consacrer à l'entretien du parc nucléaire. Et bien évidemment, on ne demande pas par cette loi NOM à ses pseudo-concurrents de participer à l'entretien du parc électronucléaire. Non.
Et qui d'ailleurs aussi construiront des centrales à gaz un peu plus tard avec cet argent-là.
Ben évidemment, évidemment. Donc on ne fait que créer un marché de rente sous prétexte de concurrence libre et non faussée. Et derrière tout ça, il y a la vision que l'État a du nucléaire. On veut favoriser le nucléaire à tout prix, en flinguant allègrement les éoliennes, le photovoltaïque, etc.
Ce qu'on a réussi à faire assez bien.
Pour vendre du nucléaire qu'on n'arrive pas à vendre, on introduit, donc on retire un peu d'argent dans les poches d'EDF qui ne pourra moins investir sur le nucléaire. Et en plus, Nicolas Sarkozy a décidé, sans en faire référence au Parlement, a décidé de créer de la concurrence au sein même du secteur nucléaire. Hein, Gaz de France, Suez pourra bientôt fabriquer ses centrales.
Alors Charles Becbédé, qui est encore le président du conseil d'administration de Poweo, dit « Oui, mais les prix bas, ça freine la lutte contre le gaspillage. » C'est son argument.
Ben voyons. Mais oui, mais forcément. Mais tout le monde le dit, les écologistes le disent, et en soi, c'est pas stupide. Le jour où l'électricité sera très chère, on fera attention. Oui, d'accord, on fera attention. Mais ce sera aux dépens de qui? Ce sera aux dépens des gens qui ne peuvent pas faire autrement, aux dépens des gens qui ont peu de moyens. Voilà, tout ça, c'est vrai. Mais si on a un cadre sociétal, un cadre social, on a une redistribution, on a une aide qui permet à la population, effectivement, de payer plus cher son énergie. On en revient à la polémique, au débat qu'il y a eu sur la taxe carbone.
Alors, les associations de consommateurs sont aussi vent debout par rapport à cela. La hausse, déjà pratiquement dès la première année, ça va être en gros 7%. Et on peut aller jusqu'à 15% d'ici 2015.
Plus que ça. 30%,
pardon.
30%.
Ouais.
D'après Que Choisir, on sera entre plus 21 et plus 28% pour un bénéfice nul. Ça ne va faire qu'aller dans les poches des concurrents. Encore une fois, c'est de l'argent en moins sur la rénovation du parc nucléaire, alors que le gouvernement prétend faire passer le nucléaire devant, hein, cette énergie décarbonée, faire passer le nucléaire devant toutes les autres formes d'énergie. Donc on est dans une schizophrénie, une absence totale de cohérence. Au final, tout le monde sera perdant, y compris EDF, parce qu'on voit mal comment, dans l'état actuel, il pourra continuer à entretenir ses centrales nucléaires.
Alors, on est d'ailleurs aussi dans un glissement sémantique. On est passé des mots énergie renouvelable, ça devient énergie décarbonée.
Et vous avez vu ça ? Oui. Ben oui, tout ça, c'est pour favoriser le nucléaire, parce qu'il reste un domaine industriel dans lequel la France est leader. À part, il y a l'armement, on n'est pas mauvais, même si on n'arrive pas à vendre de rafales. Et il y a le nucléaire. Mais en même temps, le nucléaire, on le flingue en ouvrant le nucléaire à la concurrence. Mmh. Hein, GDF va pouvoir construire des centrales et on vient d'autoriser Areva à vendre la technologie qui va permettre à la Chine, en partenariat avec Areva, de construire un réacteur de troisième génération. Voilà, donc c'est une incohérence totale.
Un autre mot, compteur intelligent.
Oui, c'est ça aussi, c'est pas mal. Alors en soi, c'est pas stupide, si vous voulez. Le compteur intelligent, il analyse en permanence votre consommation, que ce soit votre grille-pain, votre salon, donc il sait pertinemment ce que vous faites.
Quand vous faites de la raclette, vous voyez éventuellement le compteur exploser. Donc,
Et donc bien évidemment, parce que vous êtes un écolo, vous arrêtez tout de suite la raclette et vous prenez une soupe en sachet. Ça coûte moins cher pour le climat.
Même si elle a fait 10 000 km.
Mais c'est... Oui, mais c'est peu importe. Voilà, ce qui compte, c'est l'information immédiate. Donc ce compteur qui va être instauré dès le 1er janvier, alors même que l'expérimentation n'est pas terminée. Hein, c'est un des cadeaux de Borloo avec le gaz de schiste. Il a signé le décret avant que l'expérimentation ne soit achevée. Donc ce compteur va tout analyser, mais vous ne verrez rien chez vous. Il n'y a que votre distributeur d'électricité qui verra en permanence ce que vous consommez. Donc le bénéfice pédagogique pour le consommateur, c'est-à-dire oui, j'ai une électricité chère, mais je vois ce que je consomme, je vois à quel moment je consomme, je vois quels sont les appareils qui consomment le plus, donc je peux agir là-dessus. Non, il n'y a que le distributeur qui le saura.
Est-ce que ce ne sera pas dans une deuxième partie, dans un deuxième temps ?
Oui, avec un autre compteur qui est prévu, qui va s'ajouter à celui-ci. Alors le premier compteur, on va le payer à hauteur de 2 euros par mois pendant 10 ans, et sans doute que l'autre, on le paiera également. Donc, il aurait fallu faire ça dès le départ. Mais derrière tout ça, encore une fois, le bénéfice sera pour qui ? Il sera pour les distributeurs d'électricité, parce que ça va leur permettre d'arranger leur grille tarifaire de façon très individualisée. Et puis comme il n'y aura plus de relevé, ça leur fera diminuer les coûts de fonctionnement. Mmh. Donc ça va augmenter leur marge pour leurs actionnaires.
Allez, un autre son.
Le débat sur la taxe carbone a été un grand moment de confusion. En soi, et de confusion avec le Grenelle. Tout le Grenelle n'est pas dans la taxe carbone. Oui, la taxe carbone était dans le Grenelle, elle était aussi dans le pacte écologique de 2007. Pour autant, tout le Grenelle n'est pas dans la taxe carbone. Pour moi, la fiscalité environnementale est au cœur d'une politique environnementale et le débat sur la taxe carbone reviendra. Il reviendra au niveau français, il reviendra au niveau européen, il reviendra même au niveau mondial.
NKM, vous l'avez bien compris, donc notre ministre de l'Environnement, sans refaire, parce que là vous travaillez aussi sur un ouvrage qui sortira bientôt, on y reviendra, sur tous les mécanismes du carbone. Aujourd'hui, donc, on a compris que la taxe carbone est de côté, on verra donc ça plus tard, et surtout après 2012, bon, et encore on verra ça. Qu'est-ce qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie ? Est-ce que ça concerne le particulier ? Ça concerne qui ? Qu'est-ce que c'est ?
Ça concerne tout producteur d'électricité, donc ça peut être vous, Denis, si vous avez des panneaux solaires sur votre toit. Le certificat d'économie d'énergie, alors c'est assez complexe, c'est un mécanisme assez proche de celui de la compensation du marché du carbone. C'est, vous êtes distributeur d'électricité, vous avez un objectif fixé par l'État de réduire l'électricité que vous vendez vendez, le volume d'électricité que vous vendez. Et pour ce faire, vous faites en sorte que vos clients, vous et moi, utilisions des matériels qui consomment moins d'énergie.
D'accord.
Voilà. Donc, il y a un scénario sans ce nouveau matériel, un scénario avec ce nouveau matériel. On fait la différence. Ça fait un certain nombre de kilowattheures économisés qui permettent de fabriquer donc ces crédits d'économie d'énergie que va pouvoir revendre votre distributeur d'électricité au même titre que n'importe quel autre bien comme un quota carbone.
Il va les revendre à qui? À l'État? Enfin, qui va acheter
ça? Il peut les revendre à un producteur d'électricité ou il peut le revendre ou en racheter à un autre distributeur.
Ah,
c'est un marché. C'est un marché. C'est une forme de monnaie, si l'on veut. Alors, je vous dirai la même chose, mais on en reparlera peut-être plus tard à l'occasion de la sortie de ce livre. C'est un peu la même chose que pour la compensation. C'est on vend et mesure quelque chose qu'on ne consomme pas in fine. Et donc, ça permet toutes les dérives. Moi, distributeur, je veux gagner beaucoup d'argent avec ces certificats d'économie d'énergie. Donc, je vous vends un matériel qui, en théorie, va permettre de faire beaucoup d'économies, qu'elles soient réelles ou pas, peu importe. Et puis surtout, on fait installer par ce biais, chez les consommateurs que nous sommes, des matériels, mais personne ne vient vérifier l'usage. Or, ce qui fait que l'on consomme beaucoup, ce n'est pas les matériels dont l'efficacité énergétique est de plus en plus importante.
C'est le comportement,
c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Nous fonctionnons tous, à budget égal. Donc, si nous avons un frigo A++++ qui consomme moins, nous allons l'acheter plus gros. Si nous avons une chaudière à condensation, nous allons mettre 19 degrés plutôt que 18 parce que nous savons que nous allons faire des économies d'argent. Voilà. Et ça, c'est bien évidemment pas mesuré par les certificats d'économie d'énergie. Ce serait mesuré par ce compteur intelligent, mais comme ce compteur intelligent n'a pas d'écran dans la maison, quel est l'intérêt? On ne verra pas justement cet effet.
Alors ça, celui-là, j'espère que ça viendra donc après dans un deuxième temps.
Il faut l'espérer.
Mais c'est à propos des certificats d'économie d'énergie, c'est aussi pour ça que les transporteurs routiers sont vent debout aujourd'hui, parce qu'ils dénoncent une absence de rigueur sur le contrôle. Enfin,
il n'y a pas de rigueur, il n'y a pas de contrôle. Les normes, il n'y a pas de normes, c'est pas très normalisé, c'est pas très formalisé. Donc pour l'instant, c'est à peu près du grand n'importe quoi. Voilà, c'est...
Alors, dans la série du grand n'importe quoi, enquête sur le piratage, on a vu donc des traders aussi, et c'était emparé. Alors là, nous sommes sur le marché du carbone. Qu'est-ce qui s'est passé?
Le marché du carbone, c'est... Alors, dans mon livre, je propose de le supprimer, de l'interdire purement et simplement, et de passer à un impôt fort qui, lui, au moins, le mérite d'être démocratique, voté, transparent. Voilà, bon, la République, quoi. Le marché du carbone, c'est quoi? C'est un marché comme un autre. C'est tout. Oui. On a laissé le protocole de Kyoto à demander au gouvernement de laisser l'action globale au marché. Donc on a délégué le règlement du problème le plus grave auquel est confrontée l'humanité au marché dont on connaît la philanthropie, l'efficience, l'efficacité, etc. Donc le marché du carbone, c'est comme le marché du blé, c'est comme le marché de quelque actif financier que ce soit. Et bien il y a de la fraude, on fraude la TVA, on fait des faux certificats, on fait des fausses compensations et in fine, le marché ne sert strictement à rien et va s'effondrer en 2012 dès lors que tous les anciens pays de l'Est pourront revendre et seront obligés de revendre leurs 5 milliards de tonnes de carbone qu'ils ont en crédit. Mécaniquement, ça va faire chuter à zéro le prix du carbone. D'accord. Et comme tout est adossé au carbone, toutes les politiques environnementales, en tout cas dans notre psychologie, le carbone ne vaudra plus rien, le climat ne vaudra plus rien, et peut-être que le discours environnemental ne vaudra plus rien. Voilà, Denis, j'ai fini.
Mais nous avons effectivement, heureusement, un paquet de bonnes nouvelles à vous annoncer, ce sera pour la semaine prochaine. Mais merci à vous, en tout cas, pour ce décryptage. C'est un éclairage, hein, c'est une façon de voir les choses, mais que je trouve tout à fait intéressante. Merci à vous, Frédéric Denis. Merci à Basile Bocquer, à Guillaume Roux, à Marion Lelay, à Jean-Christophe Pinaza et Caroline Lebossé qui réalisait cette émission. Merci à Muriel Pérez pour ses disques, à Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO2 Mon Amour et son information en temps réel. Et puis la semaine prochaine, je vous retrouverai. Ça va chauffer un petit peu, on va parler du principe de précaution. Donc là, on va avoir deux personnes qui ne vont pas être d'accord, qui vont bien s'empailler. Ça va être bien Bettina Laville et puis Monsieur de Caisse-Vardoué.
Ah oui.
Et absolument. Et donc, je vous retrouve à 19h55 après les petits bateaux. Ce sera demain pour la Tulu, mon petit loup pub.